Didier Barbelivien sur Europe 1. Dis-moi ce que tu chantes.
Vous le connaissez peu ou suffisamment pas, mais il en va des marques de voitures comme des artistes talentueux. Celui-là sort des abris de garage répertoriés dans l'industrie musicale. Il est unique. J'ai des copines qui en parlent de façon dithyrambique. Comme disait Robert Charlebois, il aime que ça clique, l'humour avec la musique. Personnellement, je ne l'ai jamais rencontré jusqu'à ce jour et ça me semble totalement incroyable. Dans ce métier où tout le monde est censé connaître tout le monde, on appelle ça la grande famille du show business. C'est d'autant plus fou que je suis un fan absolu de son premier succès, tout comme vous derrière votre poste de radio. Si je vous dis la tristitude, je sais que vous êtes déjà en train de vous souvenir des paroles qui font mouche à chaque phrase et qu'on peut réinventer à l'infini. Je sais aussi que c'est presque devenu un jeu dans vos familles le soir à la veillée. Lui-même a créé une deuxième version officielle à sa chanson, sans compter les multiples adaptations qu'il en a écrit, intitulé « La tristitude du mois » dans les émissions de Michel Drucker, pour ne citer que lui. C'est décidément un garçon qui a de la suite dans les idées. Son précédent album s'appelait « L'Aventure », le nouveau « L'Aventure continue » et la tournée « La Venture » avec un trait d'union bien placé. Je me demande s'il n'y a pas un peu de Claude Lelouch chez cet artiste qui aime les sagas à répétition. Je me disais en écrivant cet édito que si j'avais 30 ans de moins, j'aurais aimé le rejoindre et participer à son spectacle. C'est donc avec un regard envieux de bohémien itinérant que j'accueille aujourd'hui en votre nom sur l'antenne d'Europe 1 celui que vous appelez comme tout le monde Old Olaf, monsieur Olivier Delafosse.
Bonjour.
Bonjour Olivier.
Ravi d'être là, Didier.
Ça va ?
Ben, pas mal.
J'ai l'habitude, la triste habitude, toi c'est la triste habitude, moi c'est la triste habitude.
Ça se ressemble.
De dire toujours la vérité au public, aux auditeurs qui nous écoutent. Et figure-toi que sans te connaître, on m'imposait, j'ai un groupe d'amis, tiens je vais les citer, Stéphane Jameau, Alexandre Rodriguez, et pourtant il vit à Genève, tu vois, c'est loin.
Ouais.
Eh bien ce groupe d'amis-là, il m'imposait à un moment de ma vie d'écrire des adaptations de la tristitude. Quant à ma femme et ses copines, je t'en parle même pas. Elle décrochait pas de ça. Voilà comment je t'ai connu. Et c'est vrai que c'est une idée de dingue au départ.
Oui, mais d'ailleurs, moi j'ai...
C'est toi qui chante dans le... Oui.
Ah ben j'espère bien.
Oui, c'est toi.
Sauf si le réalisateur de l'album m'a fait
et
une
moi,
blague.
À l'époque, je riais parce que je disais... Si Claude François avait vécu, on aurait fait faire une version de la tristitude à Claude François.
Ah
parce
bah oui.
Que la musique, la mélodie de cette chanson, elle a un petit côté clo-clo. Tristitude.
Bah, au fur et à mesure de la chanson, ma voix prend des intonations de clo-clo, en effet. Mais tu sais que j'ai le même problème que toi. Des gens d'Europa m'ont obligé à en faire une. Mais c'était même toutes les semaines, mais à un moment, et c'était très compliqué.
Mais c'est très compliqué.
T'as 12 pieds pour poser un thème et le résoudre avec une rime spéciale. Ouais, non,
c'est une grande, grande réussite.
Ben merci, Didier.
Puis en plus, pour avoir planché dessus, je sais quand même un peu de quoi je parle.
Mais je veux évidemment entendre toutes ces versions. Je veux que tu publies l'album Les Tristitudes.
Je te jure, ma copine Géraldine Rodriguez, qui est à Genève, elle a enregistré. Elle a filmé, camarade.
C'est parfait.
Bon, ton premier choix, là, on sent... Alors là, les gars, ça n'a plus rien à voir. Mais tu nous as choisi un sacré chef-d'œuvre, d'un sacré bonhomme. Jacques Brel, Amsterdam. On y va.
Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui chantent, les rêves qui les hantent. Au large d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges morts. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de pierres et de drames aux premières. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam,
Il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants, ils vous montrent des dents, à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant dans le port d'Amsterdam. Il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon France. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port de l'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles dans le port de l'Amsterdam, dans le port de l'Amsterdam.
Jacques Brel, Amsterdam, le premier choix de mon invité Old Olaf. Moi, je ne sais plus, les superlatifs, je ne sais plus ce qu'on peut dire. C'est une chanson clip, une chanson spectacle, une chanson film.
C'est quoi ? Ça touche à l'histoire des gens qui l'évoquent dans la chanson, mais je trouve que ça, c'est inscrit dans l'histoire même de la chanson. Enfin, et surtout, se dire qu'il a créé ça le jour de cet Olympia 64, ouais. Que les gens ne connaissaient pas la chanson. Quand tu vois et tu entends, l'effet que ça fait à la fin.
Mais c'est un truc de fou.
C'est-à-dire que le temps s'arrête, le type écrase tout de son talent, l'écriture, l'interprétation, la musicalité.
La justesse, la vérité, la vie de la chanson. Tu sais que moi, j'étais trop petit pour aller voir Brel cette année-là, mais j'ai des copains qui y étaient, qui m'ont raconté. Moi, j'avais 10 ans, je ne pouvais pas y être. Mais ce n'est pas une ovation qu'il a eue, c'est, je sais pas, 12 minutes d'applaudissements debout. Les gens étaient devenus fous.
C'est ça.
Il a été obligé de la refaire. Et il n'a jamais enregistré. C'est dingue.
C'est absolument sidérant.
Il n'existe que cette version.
Et je te dirais tant mieux, parce que de toute façon, que faire de mieux que ça ?
Enfin, je sais pas.
Comment tu peux retraduire cette émotion incroyable en studio ? Mais en tout cas, moi, tombant, si tu veux, petit garçon, sur moi, ça à la télé.
Je me souviens le truc en noir et blanc, la séquence.
C'est ça. Ouais. Comment un type dégingandé comme ça, avec cette allure, ce regard creux, c'est transpirant, un peu dégueulasse.
Ouais, puis, cette gueule d'anti-artiste avec son costard et sa cravate.
C'est
et
ça.
Tout,
c'est un peu de ces Gaston Lagaffe au début.
C'est ça.
Et il arrive et il emporte tout. Il te piège complètement dans cette histoire, dans cet endroit un peu crado. Et en fait, tu y es, t'es avec eux. Et surtout, cette phrase si forte qu'on connaît tous par cœur. Et il pisse comme je pleure sur les femmes infidèles qui t'amènent encore ailleurs et qui généralisent tout.
C'est la misogynie perdante de Brel.
C'est ça.
Quelquefois, il l'a eu gagnante. Je me souviens, il y a une chanson qui s'appelle « La ville s'endormait ». Tu connais ça ?
Non, je ne l'ai pas.
Où il dit « D'entre elles, les connes ne ressemblent qu'aux connes, et je ne suis pas bien sûr, comme le chante un certain, quel soit l'avenir de l'homme. » Bon, ça aujourd'hui, tu vois, moi je l'ai dit à la radio, mais enfin bon.
Mais
tu mets ça
sont,
dans un disque, t'es viré tout de suite.
Mais de toute façon, ces discours n'étaient pas foufou, il était quelqu'un d'assez misogyne, mais maintenant qui appartient à une autre époque et tout.
Oui, exact. Je ne sais même pas si ce n'était pas un jeu chez lui de se comporter comme ça, mais il n'y a pas une phrase à côté de la plaque.
La preuve, c'est qu'on connaît tous quasiment toutes les paroles par cœur et on se les ressasse. Avec
et toi, ton choix, il est porté par quoi, en dehors du fait de l'émotion et de l'amour de Brel ? Toi, t'aimes cette idée des hommes qui vont jusqu'au bout d'eux-mêmes ?
Alors, ce qui m'a sidéré, en fait, et il y a un mélange de d'inaccessible étoile, pour reprendre une expression à lui,
exact.
Mais de bouleversement qui a fait que c'est lui, quand je le vois à la télé, qui me donne envie de faire de la scène. Et en disant que ben, j'arriverai jamais à son niveau. Tu vois ce paradoxe qui dit je veux faire comme lui alors que je ne pourrai jamais.
Non, mais c'est ça qui est génial. Mais enfin, moi, je trouve ça, c'est pas grave. C'est ça qui suscite les vocations. Moi, j'avais le même tout comme mon phénomène d'écriture quand j'écoutais tous mes aînés, je ne vais pas les citer à chaque fois, et tous ceux qui sont passés avant moi et qui étaient des grands, grands auteurs de chansons. Et je me disais à chaque fois que j'entendais, par exemple, Toulouse de Nougaro, qui est un chef-d'œuvre, La mémoire et la mer de Ferré, c'est un chef-d'œuvre. Je me disais, bon, il faut que j'écrive des chansons comme ça. Ben alors oui, que je n'écrivais pas le dixième de ça, mais ce n'est pas grave.
Non, en tout cas, au moins, ça a suscité une envie, vraiment un déclic de dire comment je peux travailler sur moi par rapport à tout mon maladresse, mon non-talent. J'avais rien, je voulais juste dire comment on fait pour essayer d'atteindre ça. Et du reste, j'ai eu la chance une fois d'interpréter la chanson pour un spectacle souvenir des années 60 qu'on faisait, et j'ai chanté cette chanson, et il paraît que c'était pas mal. C'était un petit comité, c'était pas filmé, etc. Mais les gens qui étaient là m'ont dit... bravo, donc j'étais fier, il y avait le côté petit garçon qui avait réussi un petit peu à toucher une petite partie de son rêve. En tout cas, maintenant, depuis, j'ai la chance de jouer dans des grandes salles et d'avoir fait, surtout, tu sais, mon rêve, c'était de faire l'Olympia. Et la première fois que je joue l'Olympia, c'était en 2010. Et te dire, même si ce n'était pas les locaux exacts qui ont un petit peu bougé, mais je sais que j'ai une émotion extraordinaire.
C'est sympa, tu sais, quand tu lis ton nom.
Ah,
oui. Tu sais que moi, je me mettais sur le trottoir en face.
Tout le monde l'a fait, bien sûr.
Je regardais, je me disais, ben si, c'est bien.
C'est le jour J, ça y est.
Ouais, j'y suis.
Ouais, c'est incroyable. Hein.
En tout cas, tu as commencé très fort dans ton premier choix. On te retrouve dans quelques instants.
Dis-moi ce que tu chantes. Didier Barbelivien sur Europe 1.
Et on se retrouve juste après la pub pour la suite de Dis-moi ce que tu chantes.
On en parle.
La machine à café L'Or Barista Sublime vient d'être élue produit de l'année 2022. On en parle avec Mathilde, une utilisatrice. Bonjour.
Bonjour.
Alors pourquoi avoir choisi une machine L'Or Barista Sublime ?
Parce qu'elle me permet de faire deux espressos à la fois,
ouais.
Un véritable double espresso ou un café long grâce à ses capsules XXL qui sont exclusives L'Or Barista.
D'accord.
Et en plus, elle est compatible avec la majorité des capsules qui sont existantes sur le marché. Et puis, elle prend peu de place dans ma cuisine. Elle fait hyper design.
Et en termes de goût, ça donne quoi ?
Franchement, j'adore. Pour moi, elle fait les meilleurs espressos. Et en plus, il y a plein de variétés de capsules disponibles, donc j'ai vraiment le choix sur les goûts et les intensités.
Et vous me disiez que vous alliez offrir une machine L'Or Barista Sublime à votre maman.
Oui, pour la fête des mères. Il y a une offre qui rembourse jusqu'à 80 euros pour l'achat d'une machine L'Or Barista. Elle qui adore les espressos, elle va être ravie.
J'en suis sûr. Merci beaucoup, Mathilde.
On en parle. Offre fête des mères valide jusqu'au 30 juin 2022. Modalité complète sur le site lorespresso.fr/remboursement. Dis-moi ce que tu chantes, par Didier Barbelivien.
On retrouve Old Olaf, alias la tristitude. J'aime bien t'identifier comme ça, parce que
bien.
Pour moi, tu seras tout le temps la tristitude. Quand tu as eu un tel tube... Mais... Ah. Moi, par exemple, les gens, ils m'appellent à toutes les filles dans la rue, à toutes les filles que j'ai tout le temps. Mais je trouve ça super. Déjà, d'en avoir fait un,
bah oui, c'est
génial.
Ça. Bon, toi, t'en as pas. T'en
ouais,
as
mais
pas
bon.
Non, mais c'est cool. Et puis surtout sur Europe 1, si tu veux. Moi, j'ai un vrai lien avec Europe 1 grâce à la tristitude. Donc là, moi, je suis très fier d'être identifié avec
ça. Oui, on est estampillé Europe 1 et on s'en réclame. Allez, ton deuxième choix, Foule Sentimentale, Alain Souchon.
Car foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales, foule sentimentale. Il faut voir comment. Sans aucun avantage, on nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, déconner, né, pour des cons alors qu'on est des foules sentimentales avec soif d'idéal. Attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales, foule sentimentale. Il faut voir comment on nous parle, comment on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on nous Paul Lussoulier. Oh, le mal qu'on peut nous faire et qui ravage à la moqueur du ciel dévale un désir qui nous emballe pour demain nos enfants pâles, un mieux, un rêve, un cheval.
Alain Souchon, foule sentimentale, le deuxième choix de mon invité Oldola. Écoute, c'est presque une tristitude à l'envers. Ça raconte une tristitude aussi.
Ouais,
cette foule sentimentale.
Une forme de.
Il y a quand même une petite critique, quand même. Pas mal, même.
Il y a une critique, mais alors, moi, si tu veux. Pour parler clairement de la chanson, pour moi, c'est la plus grande chanson française. Voilà, je vais être. C'est pour ça que je l'ai choisie, parce que c'est pas ma préférée de Souchon.
Je crois
que j'aurais mis Les filles électriques au-dessus en termes de beauté, mais...
Mais celle-là dit tout.
En fait, elle dit tout, et surtout, j'aime la simplicité des accords, mais il y a un côté brut qui est incroyable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en bof, et quand tu la joues avec des gens autour de toi, tout le monde, pareil, connaît les paroles par cœur, mais ce que je trouve qui dépasse les arrangements, tout va bien, l'équipe, l'époque à laquelle ça arrive, c'est incroyable, et en fait, c'est des paroles qui nous lient, qui lient les gens, et avec tu vois ce côté, on se fiche de nous, qui est tellement toujours d'actualité par rapport à tout ce qu'on vit autour. Mais ce côté, on nous bassine d'infos, de médiatisation sur des fausses valeurs. Et on arrive quand même au milieu de ça à se dire que on est un peuple, on est des gens ensemble qui essayons de vivre au mieux, de faire au mieux avec nos vies et d'avoir...
Et qu'on a encore des rêves simples.
Exactement. Et il a ces phrases hyper percutantes, hyper publicitaires presque. Ce sont des slogans.
Ah,
il a cette force d'humour. Putain, il réduit. Enlevons les verbes, enlevons le flonflon, enlevons les parce que, enlevons les
et
cependant, et blam.
Et il est poétique à chaque fois.
Et puis voilà, une des chances est d'avoir rencontré le bonhomme, rencontré sa famille, de partager du temps un petit peu. C'est vraiment une chance, tu sais, quand la personne que tu admires en chanson est à la hauteur de tes rêves, quand tu la rencontres dans la vie. Et tu vois, une chanson comme ça, ce qui me plaît, c'est que Feder, il y en a d'autres chansons dans les choix que j'ai fait aujourd'hui. Et je crois que c'est ça qui m'apporte une chanson, et c'est pas à toi que je vais la prendre, c'est là pour fédérer, c'est là pour que les gens soient ensemble, c'est là pour se dire vas-y, on va essayer de passer ce moment de vie ensemble. C'est, on partage une chanson comme on partage un bon vin, un bon repas, une conversation, comme on regarde la mer ensemble, tu vois. Et j'ai besoin de ça. Et une chanson comme ça, ça arrache tout. Ça t'emmène sur un terrain d'entente.
C'est
en fait.
Vrai, puis elle est chargée de générosité, de constats drôles aussi, parce que, regarde, ça c'est des phrases que t'aurais pu écrire, on nous prend, faut pas déconner, dès qu'on est né, pour des cons alors qu'on est. C'est fou le sentiment.
Ouais.
C'est bien vu, c'est bien tourné, mais toi, c'est important dans ta vie, l'autodérision aussi des choses. Ouais.
Ça commence avec mon physique dès le matin, il faut avoir pas mal d'autodérision pour continuer. Mais ensuite,
Mais oui, je suis Alain Delon. Mais oui, mais bien sûr, je suis Alain Delon.
Non, jouer l'humour, c'est une partie très très importante de la communication que je peux avoir parce que je suis pas quelqu'un de frontal. J'aurais jamais pu avoir justement, tu sais, des revendications à la Ferré. C'est pas du tout. Jamais j'ai senti cette force du premier degré total. J'ai besoin d'une petite porte d'entrée d'humour, de clin d'œil, de sourire pour attirer l'oreille quand j'écris et puis pour attirer les cœurs aussi.
Mais tu vois, je suis heureux d'entendre ta réflexion par rapport à ça parce que je me dis en t'écoutant parler, finalement, les hommes d'humour, c'est pas loin d'être des hommes d'amour.
Ah bah écoute, je croise les doigts pour. Mais tu vois, j'ai quand même une admiration profonde. J'ai donc été chroniqueur plutôt humoristique dans une émission de Dave sur France 3 à un moment. Et en fait, quand j'étais là, moi j'étais là, j'aurais pu être là en tant que chanteur. Bah non, j'étais là en tant que plutôt qu'humoriste, c'était ma partie plutôt humour. Mais je me régalais parce que je croisais plein de chanteurs, des gens que j'admirais. Et j'étais estomaqué de voir un lama sur le plateau, quand je vois cette force, mais cet ouragan du premier degré que je suis incapable de livrer, tu vois. Mais tu ne peux pas douter de ce qu'il dit, tellement non. Il se livre, il est à fleur de peau, il est en train de presque pleurer sur une manière de chanter, et en fait, ça met tout le monde d'accord. Et je crois, en fait, avoir compris pas mal de choses en regardant d'autres chanter, en disant tu peux chanter ce que tu veux tant que tu crois profondément à ce que tu chantes, que ce soit une histoire simple, une histoire très compliquée. Les anarchistes le chantaient parce que c'est un truc qui leur arrachait le cœur. Mais à partir du moment où tu essaies de correspondre à quelqu'un d'autre ou à un groupe de gens, si ce sont des choses auxquelles tu ne crois pas, ça ne peut pas fonctionner. Il faut une vérité.
Il y a un joli mot pour résumer tout ça, ça s'appelle la sincérité. Mmh. À tout de suite.
Europe.
Europe 1, dis-moi ce que tu chantes. Par Didier Barbelivien.
On retrouve mon invité d'aujourd'hui, le dimanche après-midi, le jour qu'on est, le jour du Seigneur. Il s'appelle Old Olaf. Dans la vie civile, Olivier Delafosse.
Parfait.
J'aime ça quand tu me complimentes. Pour une vie moins ordinaire interprétée par les innocents. Et je vais découvrir ça, vous aussi peut-être, allez savoir.
C'est dans le sang et la santé mentale, dans le sentimental, fatal. Nous irons dans la forêt, dessiner des cœurs à la craie, mesurer notre chance, retrouver nos absences, étendu au pied d'un chêne, sans savoir où ça nous mène. Thank you.
Les innocents, une vie moins ordinaire. Ah, c'est sûr que le texte, il nous en raconte ce texte. Regarde, la menace est dans le temps aux erreurs boréales, aux humeurs hivernales. Cet humour et cette angoisse, ça te ressemble, ça ?
Oh, j'espère. J'espère pouvoir ressembler un peu à ça, cette description. En tout cas, les paroles sont toujours intéressantes. Parce qu'en plus, pour comprendre les paroles des innocents, c'est toujours un travail. Il n'y a rien de facile d'accès. Mais quand tu commences avec tous les jeux de mots,
c'est vachement bien.
Ça, quoi. Mais cette musique, je trouve qu'il y a un exploit extraordinaire, et là c'est aux musiciens que je m'adresse, mais ils ont réussi à mettre à peu près tous les accords qui existent dans cette chanson. Il y a une montée permanente,
chromatique.
Voilà, ils n'arrêtent pas de changer de tonalité, même pour reprendre les
refrains. Non, mais c'est pas une mélodie. Tu siffles pas ça sous la douche. Non, je te dis tout de suite.
Il faut se concentrer. Et alors, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire cette chanson, c'est que déjà, moi, j'étais fan des Innocents depuis très longtemps, depuis même Jody, donc dans les années 80.
Ils ont
80.
Un son, ils ont une écriture, ils ont un truc.
C'est incroyable. Et on se croise à un festival à Puy-Saint-Vincent. On se rencontre un peu et on commence à buffer sur les Beatles avec. On s'entend bien, mais moi, donc j'étais fan, je ne leur dis pas tout de suite, mais je leur dis, est-ce que vous allez jouer cette chanson Une vie moins ordinaire au concert qu'ils allaient faire le lendemain ? Et il me dit, bah non, parce qu'elle est trop compliquée. Enfin, on l'a jamais jouée sur scène, parce que c'était trop chiant à relever. Je leur dis, bah attendez, moi je peux peut-être...
je vais la faire.
Mais alors, il s'est passé quelque chose. Ils ont dit, vas-y banco. Et la première fois qu'ils ont joué la chanson sur scène, c'est moi qui l'accompagnais, moi, le fan. Alors que je leur demandais, mais j'étais... mais dans un rêve. Alors évidemment, tu t'en doutes, je me suis planté le jour du concert. On l'a reprise, mais j'ai réalisé un rêve de gosse absolu. Donc j'ai joué avec les Innocents pour jouer une chanson qu'ils n'avaient jamais jouée sur scène. Et celle-là.
La menace est dans le sang et la santé mentale dans le sentimental fatal. Ça, c'est quoi ? C'est l'histoire de l'humanité pour toi ? Ça, c'est un peu pessimiste, mais bon.
Oui, il y a des images un petit peu, violentes. J'essaie de m'accrocher à une forme d'optimisme. Quand j'étais jeune, j'ose dire ça maintenant, de toutes mes années, mais en tout cas, quand j'étais jeune, j'avais un vrai optimisme en disant tout va bien
se remettre
voilà,
en place.
Tout va se remettre en place, c'est pas possible que. Et aujourd'hui, j'ai plutôt un travail intérieur en me disant il faut être optimiste, il faut se battre pour. Mais c'est plus compliqué. Chaque jour qui passe, on enlève un petit peu.
Et tu penses que toi, dans l'amour, c'est une fuite dans la vie ? Ou c'est une solution ? C'est un truc pour s'évader ? Ou c'est un truc qui est vraiment... c'est le Graal, c'est ce qu'on continue de chercher, d'aimer, qu'on cherchera toujours ?
C'est sûr que c'est une quête. Je crois que c'est surtout une chance, un hasard, ça tombe dessus. Je ne crois pas que tu puisses calculer. Tu peux te mettre dans des situations de confort, parfois dans des relations. Mais l'amour, il ne se calcule pas. L'amour, il vient, il va. Et c'est une... c'est un chemin, en fait. C'est une rencontre. Quand je dis une rencontre, c'est une rencontre avec l'amour même.
Avec ce sentiment.
Ouais.
Mais quand t'es gosse, t'y crois, quoi. Moi, je me souviens, quand j'étais ado, ça me rendait fou d'être amoureux, quoi.
Oui, mais en plus, je te dirais, l'amour adolescent, c'est une telle violence quand ça t'arrache le cœur parce que ça se passe jamais comme tu l'as prévu, ou quand ça se passe comme tu l'as prévu, c'est encore pire, tu te sens nul, tu fais jamais les choses qu'il faut.
Pour ça qu'on écrit des chansons après.
Et alors ça nous a sauvé la vie à toi et à moi. En effet, la psychanalyse des chansons, de pouvoir écrire ce que tu ressens, et moi c'est ce qui m'a sauvé. Dès que t'es vraiment complètement bouleversé par un amour béat, tu vois, je pense que tu deviens, t'es plus toi-même, et c'est compliqué. Avec le recul, avec les années qui avancent, t'arrives à vivre des choses que tu découvres être de l'amour, je crois, dans des choses très simples, dans des moments qui sont romantiques, parce que justement, ils ne le sont pas, ils ne sont pas écrits.
On te retrouve dans quelques instants.
Europe 1, dis-moi ce que tu chantes, par Didier Barbelivien.
Olivier Delafosse est mon invité de ce dimanche après-midi. Olivier Delafosse, son nom d'artiste, je vous le redis, mesdames et messieurs, encore une fois, Old Olaf. Old Olaf.
Old Olaf.
En un seul mot. Old Olaf.
Ouais, tout à fait.
J'adore. En fait, c'est une contraction.
C'est une contraction d'Olivier Delafosse. C'est une astuce extraordinaire.
C'est toi qui as trouvé ça ?
Oui, tristement, oui.
Et après, c'est plus ou moins moi. Ils te surnommaient comme ça, ils t'appelaient Old Olaf à l'école ? Non.
On m'appelait plutôt allez, Olive. Delaf, ou Olive ou Delaf, Bouboule, le gros.
Ouais, moi je comprends pas les mecs qui m'appelaient Barbelive et je me disais, mais pourquoi ils vont pas jusqu'au bout de mon nom? C'est les mêmes, c'est le même nombre de syllabes.
Ouais, c'est
tu
vrai.
Vois, c'est spécial quand même.
Non, après, moi, je crois que c'est bon signe. Quand on nous surnomme, c'est plutôt... moi, je sais que j'aime bien donner des surnoms aux gens que
ouais,
j'aime bien.
Ouais, et puis c'est gentil, en général. Ouais. C'est bienveillant.
Ouais, Barbelif, c'est pas
ouais,
méchant.
Non, c'est pas c'est... méchant.
Et Paris Delaf, c'était pas méchant. Ouais, Delaf, c'était plutôt même très gentil.
On va retrouver un grand cœur, un gentil. Ça fait partie de tes choix aussi, Monsieur Joe Dassin, les Champs-Élysées.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corde, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées.
Le magnifique Joe Dassin, et toi tu faisais la petite clarinette qui va bien derrière. Les Champs-Élysées, Joe Dassin, c'est ton choix ça aussi.
Ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est pour moi une chanson et un chanteur, Joe Dassin, populaire par excellence. C'était vraiment,
ah ouais,
on chante pour les gens et cette chanson, elle a un pouvoir extraordinaire de fédération de gens. Et je milite vraiment, et là, c'est peut-être des choses qui vont encore faire polémique, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je trouve que cette chanson devrait devenir l'hymne national français parce que je fais partie des gens qui... Je trouve que la Marseillaise a fait un peu son temps. Je suis plus trop, moi, sur le trip des sons qui vont abreuver les sillons de... Voilà.
Je suis d'accord, il vaut mieux aller faire de la musique avec des potes dans un sous-sol.
Et cette chanson qui est un symbole, évidemment, français, les Champs-Élysées, et que tout le monde connaît par cœur déjà. Donc, je pense que ce serait incroyable.
En tout cas, l'idée est lancée, elle est originale.
Exactement.
Elle n'est pas neutre. Non. On va recevoir du courrier,
c'est ça.
Je le sens.
Mais en tout cas, j'imagine un match de foot qui commence par aux Champs-Élysées pour un
non,
match.
Mais why not? Parce que regarde, moi, j'ai deux jeunes enfants, deux filles. C'est une chanson qu'elles chantent régulièrement dans la voiture. Évidemment, elles n'ont jamais connu Joe Dassin, elles ne savent pas.
Non, là.
Mais elles l'ont entendue à la radio et c'est une chanson qui plaît naturellement. Donc, elle a traversé le temps, les générations et c'est merveilleux.
Elle est incroyablement sympathique. Elle est
quand les chansons voyagent comme ça, c'est traversent ça. La vie. Bon, celle qu'on va écouter maintenant, alors, j'allais dire, oui, c'est un peu le choix de l'animateur, j'en reviens à ça, c'est par là qu'on a commencé. Mais moi, je ne m'en lasse pas, je ne peux pas te laisser repartir sans avoir entendu, mesdames et messieurs, cette chanson qui devrait être, alors à mon sens, non pas la, remplacer la Marseillaise, mais en tout cas être chantée dans les écoles, parce que c'est un monument de joie, de bonne humeur, de drôlerie. Et ça fait du bien d'entendre des chansons qui nous remettent comme ça.
Merci.
Et pourtant, ça s'appelle la tristitude. Mais ça n'a rien de triste, mesdames et messieurs.
La tristitude, c'est quand tu viens juste d'avaler un cure-dent. Quand tu te rends compte que ton père est suisse-allemand. Quand un copain t'appelle pour son déménagement. Et ça fait mal. La tristitude, c'est quand tu marches pieds nus sur un tout petit Lego. C'est quand lors d'un voyage en Inde, tu bois de l'eau. Quand ton voisin t'annonce qu'il se met au saxo. Et ça fait mal. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi. C'est un peu le détresse dans le creux d'un noir. La tristitude, c'est c'est wouh. La vie qui te dit que ça ne va pas du tout. La tristitude, c'est quand t'es choisi pour être gardien au handball. Quand t'es pressé à la sécurité sociale. Quand samedi soir, c'est ta fille qui joue sur Canal. Et ça fait chier. La tristitude, c'est quand t'es le styliste Catherine Lara. Quand ta femme fait de l'échangisme un peu sans toi. Quand des jeunes t'appellent monsieur pour la première fois. Et ça fait mal, 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 mal. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi. C'est un peu de détresse dans le creux de la voix. La tristitude, c'est ça n'a pas du tout, non, non, non. La tristitude, la tristitude, la tristitude te donne la triste, la tristitude. La tristitude te donne la tristitude. La tristitude, oh non, non. La tristitude, la tristitude.
Je ne sais pas où vous êtes en ce dimanche après-midi, si vous êtes chez vous, si vous êtes dans les embouteillages, si vous êtes allongé sur la pelouse avec un transistor à côté de vous, comme on faisait autrefois. Mais ça fait du bien. Ah, je te jure que la réentendre,
ah bah,
ça fait du bien. Et je pense à toutes mes copines que je connais, tout ce fan club qui est autour de toi, que tu ne connais pas. Il y a tellement de gens anonymes que nous, les artistes, on ne connaît pas. Et je pense à toute cette bande de folles dingos, là. Je les vois dans la tête. Et je les ai dans la tête. Et je suis sûr que si elles écoutent l'émission, elles auront chanté ça à l'unisson toutes. Elles sont folles alliées.
Bah, ça me fait bien plaisir.
Ah, mais tu peux, parce qu'un jour, je te ferai une photo de ce groupe de folles en train de chanter, où je te ferai un petit reportage en train de les écouter chanter la tristitude. Tu vas me laisser tes coordonnées. Tu vas voir que je vais t'envoyer. Tu vas voir que je ne suis pas un mytho. Et tu vas voir qu'il y a une bande de ravagés qui t'attend. En tout cas, j'étais ravi de te recevoir.
C'était bien partagé.
Je suis ravi qu'il y ait des artistes comme toi, différents. Ce sont des artistes. Tu es un artiste autre qu'un chanteur de variété tout simple qui vient avec ses chansons, ou un chanteur de tout court. Toi, c'est autre chose. Il y a de l'entertainment, il y a du...
Je ne le définis pas.
Il y a du décalage, il y a du sérieux aussi. Parce que tu es un garçon, tu l'as prouvé tout au long de cette interview. T'es pas un mec si léger que ça. Mais c'est bien que les mecs sérieux écrivent des choses légères comme ça.
En tout cas, c'est ma manière de dire les choses. Ouais. J'en ai besoin.
Allez, bonne route, bon vent.
Merci Didier.
T'as vu la route et l'aventure, puisque c'est oui, ça le nom de ta prochaine tournée.
Complètement.
Et tu joues ton prochain spectacle?
Je serai au Trianon à Paris, le 14 juin.
C'est où le Trianon?
C'est sur les boulevards du Nord, à côté de l'Élysée-Montmartre, c'est à côté de Pigalle.
Ah, à côté de Pigalle. Moi, oui, je connaissais Pigalle quand j'étais jeune, mais pas pour les mêmes raisons. Allez, bonne route et bon vent. Salut, Olivier.
Didier Barbelivien sur Europe 1. Dis-moi ce que tu chantes.
L'émission « Dis-moi ce que tu chantes » d'aujourd'hui était aussi assurée par Maryse Jacquet, Benoît Valentin, Rémi Duprat, sans oublier le générique de René Aubry. Je vous laisse en compagnie de Stéphanie Loire. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Didier. Aujourd'hui, une émission spéciale en présence de M. Ça va être exceptionnel. Restez avec nous.
Rock.